Un rendez-vous.
Bonsoir.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, c'est votre nouveau rendez-vous, le magazine en deux temps et à deux vitesses, l'actualité et la musique live, c'est en première partie, les archives extraordinaires de France Inter, en deuxième heure. Ce soir, la vie privée est de rentrée littéraire, réconciliation familiale dans le nouveau roman de Lionel Duroy, intimité surexposée avec Gaël Tchekalov, affaire Yann Moix et j'en passe. La rentrée joue une nouvelle fois la carte de l'autofiction, au risque du déballage parfois, des règlements de compte parfois, de l'atteinte à la vie privée sous. Souvent, le roman explose les familles. En a-t-il le droit, Benoît Lagane ?
Oui, mais pour en parler ce soir, autour de nous, Lionel Duroy, justement, et Gaël Tchekalov, côté écrivain, et puis un juriste, Emmanuel Pierrat, par ailleurs avocat de la famille de Yann Moix, un journaliste littéraire, Baptiste Lige, directeur de la rédaction de Lire.
La musique est moins exposée hein, à ces drames familiaux, Marion Guilbeault.
En tout cas, oui, aujourd'hui, c'est le retour des hommes en bleu, c'est les Touaregs de Tinariwen. Ils animent la résistance du désert depuis plus de 30 ans, et ils vont être en live juste à la fin du nouveau rendez-vous.
Et puis ce sera le NRV la suite pour une semaine France Inter plus de Black Session. Et oui, cette semaine, l'émission qui ouvrait les oreilles signée Bernard Lenoir de 1992 à 2011. Une décennie de concerts libres à tous les sens du terme. Ce soir, c'est Rachita qui ouvre au top de sa forme. Il partait en live le 18 décembre 2006. Allez, le NRV, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Et ça recommence une fois de plus. La rentrée littéraire est marquée cette année par des romans dans lesquels des écrivains mettent en scène leur vie familiale, amoureuse et professionnelle. Enfance martyre pour Yann Moix avec Orléans qui a créé la polémique. Vie privée, vie publique pour vous Gaël Tchekalov, vous signez Vacarme. Ou encore réconciliation familiale avec Lionel Duroy dans Nous étions nés pour être heureux. Un déjeuner de famille qui met un terme à des années de querelles après la publication de romans qui revenaient sur votre famille, les parents dans chagrin, votre fils dans colère, votre mère dans l'absente. Dans Nous étions nés pour être heureux, votre narrateur Paul retrouve ses frères et sœurs pour des explications. Dans quel état d'esprit vous avez écrit celui-ci ? Beaucoup plus apaisé ?
Très apaisé et de façon très lumineuse. Le livre m'est venu tout seul en fait. Je m'amusais d'ailleurs à penser que j'ai mis 3 mois à écrire une journée. Alors même 3 mois, c'est court pour écrire un roman. Mais si vous disséquez, vous vous dites qu'en fait, pour écrire 5 minutes de vie, il vous faut 6 heures. C'est assez intéressant, je trouve, pour la littérature, pour ce qui est l'expression de dire la vie et la mettre en mots.
Vous vous souvenez de l'état d'esprit dans lequel vous écriviez « Colère » ou « Chagrin » ou « Le chagrin » ?
Bien sûr, oui. Oui. En fait, moi, je suis entré en littérature avec « Priez pour nous ouais. » il y a 30 ans. Et ce livre m'a valu une rupture que je ne m'attendais pas à subir avec mes 9 frères et sœurs. Donc, ça a été très violent, en fait. De sorte que, quand je les revois aujourd'hui, je ne les ai pas vus pendant 27 ans. Et c'est monumental, 27 ans. J'étais un homme relativement jeune avec 2 jeunes enfants. Ils me retrouvent assez vieux, on se retrouve assez vieux avec les cheveux gris. J'ai 4 enfants, tous adultes, ils ne les ont connus aucun. Je n'ai connu aucun de leurs enfants. Et donc c'est un moment très, à la fois très émouvant et très sidérant, en fait, de devoir redécouvrir les siens. Ce sont eux qui sont revenus. Ça m'a fait extrêmement plaisir. J'étais en train de terminer l'écriture d'Eugénia quand l'un de mes frères préférés, avec lequel j'avais quitté la maison à 18 ans, m'a appelé, en disant « je voudrais qu'on se revoie, etc. Est-ce que ça t'ennuie pas qu'on vienne à tous les 4 te voir dans ta maison du Mont Ventoux ?» Ils sont arrivés et le retour, c'est incroyable, quoi. C'est comme, je pensais au retour de camp ou des choses comme ça, quand vous avez été prisonnier très longtemps, vous revoyez des gens. Et c'est une émotion incroyable, en fait. Vous voyez les visages qui ont vieilli, vous voyez cette émotion. Enfin bon, c'est un moment inouï. Et j'ai tout de suite dit, vous vous doutez bien que je vais écrire sur ce qui est en train de se passer.
Ça, c'est vrai.
Vous vous doutez bien que je vais écrire. Je peux pas faire l'impasse là-dessus. Et ça a été un débat vraiment beau parce qu'ils m'ont dit, je t'assure, on t'emmerdera plus jamais. Maintenant, tu peux écrire ce que tu veux.
Exactement ce que vous vouliez. C'est-à-dire que... Oui. Vous auriez pu aller dans des extrêmes, que cette fois-ci, ils auraient accepté l'écrivain que vous êtes.
Oui, et j'ai dit, par loyauté, par gentillesse, par affection, je vais vous envoyer le manuscrit quand il sera fini. Ils ont lu le manuscrit pour la première fois et ils m'ont écrit des mails très chaleureux et sympathiques. Et j'ai publié le manuscrit tel que je l'avais écrit sans une correction.
Ça veut dire que les autres fois, jamais vous n'avez envoyé à vos proches le roman que vous alliez publier ?
Il y a 30 ans, si. J'ai envoyé le manuscrit de Priez pour nous. Et c'est là qu'il y a eu vraiment une levée de bouclier très violente. En fait, c'est mon frère aîné qui a pris la direction en disant « Certes, c'est notre enfance, mais tu nous fais honte. Tu nous fais honte, maintenant on est à peu près grand, les petites sœurs sont mariées et tout ça. Et tu peux pas faire ça, tu peux pas raconter d'où on vient. On a vécu comme des miséreux, à l'électricité, avec les vitres cassées. Notre mère était un peu folle, notre père était poursuivi par les huissiers. T'as pas le droit de dire ça. » Et c'était ça, c'est un débat de fond, je trouve. C'est-à-dire que j'ai dû me poser la question de savoir si je décidais de vivre ou si je renonçais à ma propre vie. Il savait, hein, je l'ai dit à 17-18 ans, que j'écrirais, parce que je ne m'en sortais pas de cette vie incompréhensible. Je comprenais pas pourquoi on avait mis 10 enfants au monde. Je voulais mettre des mots là-dessus. Donc, évidemment, le premier manuscrit est fondamental dans la vie de quelqu'un qui démarre comme ça. La responsabilité de le jeter, c'était pour moi, je le savais, faire un cancer dans les 5 années. J'avais 2 petits-enfants. Je trouve que ça, c'est un moment passionnant dans la vie. Celui où vous devez vous choisir contre les autres. Et j'ai fait ce choix, j'ai mis tout l'été à choisir. Et je me suis dit, non, je vais publier mon roman et je paierai le prix à payer.
30 ans.
Ouais, le prix à payer, c'était 30 ans de solitude.
Et des procès.
Alors ensuite, le seul procès que j'ai eu, c'est le procès que m'a fait mon fils. Vous savez, j'écris sur tout ce qui est la vie, y compris l'indicible et y compris le plus douloureux. Mon fils a eu, comme beaucoup de jeunes à 15-16 ans, une adolescence vraiment dure, quoi, très violente. Quand je voyais le dernier film de Ken Loach, là, la discussion entre le fils et le père, c'était un peu ça. Mmh. C'est très très violent, quoi, très violent. Où pratiquement, il vous ricane à la figure. Et je me suis dit, je suis un mauvais père, en fait, mon fils m'a mis dans une forme d'impuissance. Et à un moment, je me suis dit, je veux écrire là-dessus. Je veux écrire sur ce que c'est que l'impuissance à être père. Et après Le Chagrin, que je venais de publier, j'ai écrit Colère, qui est véritablement un livre sur la difficulté d'être père, sur ce que vous renvoie un enfant, où vous comprenez qu'en fait, peut-être parce que vous-même, vous n'avez pas eu un père à la hauteur, vous ne parvenez pas à être un père, vous foirez tout. Et Colère est un livre de désespoir pour moi, que mon fils a très mal vécu, parce que je l'ai traité, je crois, à 3 ou 4 reprises de petit con dans le livre.
Et pas que ça aussi, il y a des passages où vous reproduisez des mails ou des courriers qu'il vous a adressés.
Oui,
aussi.
Absolument. Je trouvais ça bien, parce qu'on le voyait à travers ses mails. Et Maître Pierre Allain, on pourra en parler, mais je regrettais ça. Je regrettais que finalement, le procès se joue sur la publication de lettres privées. Et c'était dommage. C'était dommage parce que les lettres de mon fils sont belles et celles que je lui réponds aussi.
Emmanuel Pierrat, juriste,
oui,
sur ce dossier-là.
Je ne suis pas celui qui a fait un procès au nom du fils de Lionel Duroy. Je sais bien et je connais bien cette situation. Je sais bien à quel point on peut utiliser des biais contournés ou détournés pour attaquer un livre. Je le sais, en défense et en demande, parce que je suis avocat.
Vous êtes des deux côtés, oui.
Je suis mercenaire, il faut bien le dire, il faut l'admettre.
Non, avocat,
oui, avocat, ça veut dire mercenaire, ça veut dire capable d'endosser une cause ou une autre.
Vous pouvez défendre un romancier d'autofiction, mais défendre aussi les gens qui vont l'attaquer, tout à fait.
Exactement. Après, je ne vais pas nécessairement aller jusqu'au bout de ce que demandent certains de mes confrères et consoeurs, l'interdiction absolue des livres, les autodafés. Ma déontologie personnelle, qui ne regarde que moi, fait que je trouve qu'il y a d'autres moyens d'arriver à faire porter la voix de quelqu'un qui se sent dans l'intimité peut-être brusqué, qui peut se retrouver diffamé dans un livre, que de faire interdire celui-ci.
Mais la question, c'est une question de fond. Ce livre, Colère, il est passionnant. Mon fils n'est pas parvenu à le faire interdire. Il a touché un peu d'argent et voilà. La question de fond, c'est dommage que ça aille devant la justice sur des arguties judiciaires qui aient publié un mail ou publié une lettre privée, parce que ce sont très souvent de très beaux documents. Donc on prend un argutie pour essayer de faire condamner un livre. Or je considère qu'en littérature, c'est très important d'aller vers l'indicible, l'innommable. La relation entre un père et un fils, c'est extrêmement intéressant. Moi j'ai appris la vie en lisant des livres, en lisant la littérature. Je l'ai jamais appris de la part d'adultes. Quand j'écris sur cette difficulté, j'écris un roman qui s'appelle Colère. Je pense qu'il est utile à tout le monde. Et qu'outre ça, c'est de toute façon un roman et de la littérature. Et je suis toujours navré, moi, quand ça se termine devant les tribunaux. Je n'aime pas ça, je n'aime pas tellement la vie des juges, je n'aime pas me poser moi non plus en juge, et je trouve essentiel qu'on laisse les écrivains écrire.
Alors on va parler de ces histoires-là dans quelques instants. Gaël Tchakalov, vous avez pensé à tout ça quand vous avez voulu publier et écrire Vacarme ?
Moi j'ai écrit pour des raisons inverses de celles de Lionel Duroy. Moi j'ai écrit pour me réconcilier avec ma famille, qui détestait celle que j'étais devenue.
Gaëlle Tchakaloff, la journaliste flamboyante, au plus près des politiques.
Voilà, et donc j'avais changé de personnalité. Et j'ai écrit aussi, parce que les cancers, je les avais déjà eus. Donc c'est une manière de m'éloigner de la maladie et de me sauver. Donc c'est parfaitement à l'inverse. Et après, écrire sur le dédoublement de personnalité, c'est dire aux autres, à sa famille, à ses proches, mais également à ceux qu'on connaît pas, j'ai saisi un moment du réel et une réalité universelle. Donc je pense que au fond, même quand on fait de l'autofiction, on cherche toujours, comme ce que vous avez écrit, Lionel de Rouart, sur votre fils, on cherche toujours à pointer du doigt un sujet qui concerne tout le monde. Donc et ça a marché, en fait. Ce qui est fou, c'est que le dédoublement de personnalité qui était tel que mes filles, mes parents, ma sœur, mes amoureux me disaient « je ne sais pas qui tu es ».
Ils connaissaient Lucille Buffet, qui est votre vrai nom,
voilà.
Une autre personnalité, moins solaire peut-être que Gaëlle Tchakaloff.
Je sais pas. En fait, Gaëlle Tchakaloff est un pseudo sous lequel j'ai travaillé comme journaliste et comme auteur de livres politiques, absolument. Et mon vrai nom est Lucille Buffet. Et Lucille Buffet vit à Port-Cros, pieds nus, sur une île de 20 habitants. Donc, effectivement, c'est pas la même personne.
Est-ce que vous avez fait lire ce roman par un avocat avant de le publier?
Non, en revanche, j'ai prévenu tous les gens qui étaient dans le livre, c'est-à-dire les amoureux, les parents, les proches, que j'aurais demandé l'autorisation de les mettre dans ce livre, parce que justement, je voulais pas que la polémique détruise le sens du texte. Et ensuite, je leur ai fait lire le manuscrit, et ils m'ont tous laissé, parce que je pense qu'ils savaient que c'était de l'ordre du sauvetage, en fait. Donc certains m'ont dit, on est extrêmement gênés, mais ça te fait tellement de bien qu'on te laisse tout faire. Mais tout en me disant en même temps qu'ils reconnaissaient pas forcément toutes les scènes telles que eux les avaient vécues, parce qu'effectivement, même en autofiction, il y a toujours une part de fiction, de subjectivité, d'émotion, comme quand Picasso voit des femmes carrées alors qu'elles sont rondes.
Oui, avec cette précaution que vous avez prise d'utiliser le pseudonyme que vous aviez, dont vous aviez usé comme journaliste, qui, je pense, permet à la fois de dire la vérité comme écrivain, ou en tout cas de donner une voix comme écrivain, et puis en même temps de prémunir peut-être ceux qui, d'un seul coup, se retrouvent projetés sur une scène qu'ils n'ont pas choisie. Je pense que là, il y a quelque chose d'important qui permettrait de trouver une voie médiane, de ne pas s'afficher comme avec son identité de départ. Ça ne fait pas beaucoup d'illusions, hein, mais ça suffit pour, je pense, oui, prémunir ou mettre un petit peu de distance nécessaire entre l'auteur, l'écrivain, et puis ses, entre guillemets, victimes.
Baptiste Ligier.
Alors, je crois qu'Emmanuel Pierrat a sorti le mot-clé de ce débat, c'est la vérité d'écrivain. Or, aujourd'hui, dans le débat, on a tendance à considérer que la réalité factuelle et la vérité d'écrivain, il s'agit d'une seule et même chose. Or, ça n'a strictement rien à voir. On peut même partir du principe que tout souvenir est par essence une fiction, une reconstitution subjective.
Oui, mais ça, devant les tribunaux, cher Baptiste Ligier, ça ne tient pas, si?
Je me tourne vers
Emmanuel. Ça tient à condition de s'y tenir. C'est-à-dire, ça tient si vous continuez, vous dites que c'est un roman sur votre couverture, ou une autofiction, peu importe l'habileté de l'éditeur, et que vous avez pris quelques distances. Vous n'avez pas utilisé nécessairement le nom de famille de tous, vous n'avez pas nommé le village, vous n'avez pas donné l'adresse exacte, et puis vous tenez ce discours au juge, ou vous le tenez aussi dans la promotion de votre livre, en disant que c'est un travail d'écrivain. Il s'empare du réel, évidemment, comme tout écrivain, mais ça n'est pas quelque chose de neuf.
Mais ça n'évite pas quand même les...
Ça n'évite pas les procès, ça évite de les perdre, ce qui est un peu différent, cher Laurent
Goubert. Pas pour tous, donc, par exemple, Christine Angot a perdu pour les petits.
A-t-elle suivi toutes les précautions que je viens d'utiliser? J'ai beaucoup d'affection, comme vous le savez, pour Christine Angot. Je connais très bien ses livres et avoir été son avocat parfois, mais pas dans ce cas-là.
Mais je crois que dans le livre, Élise Bidoy ne s'appelait pas Élise Bidoy.
Non, il y avait beaucoup d'éléments d'identification. Qui disait qu'il n'y avait pas beaucoup de difficultés pour, en l'occurrence, je ne cherche pas à plaider la cause d'Élise Bidoy contre Christine Angot. J'ai dit simplement que dans la palette de ce qui est produit dans une rentrée littéraire, vous me pardonnerez le terme de production, cher Lionel Duroy aussi, mais dans ce qui sort, il y a des livres qui prennent plus ou moins de précautions, plus ou moins de distance, qui sont certains véritablement dans la catégorie de la fiction et qui s'affichent comme tels, tout en s'emparant pleinement du réel, et puis que d'autres, en revanche, viennent racoler directement et passer, comme c'est le cas de Yann Noirs à 7 à 8 de TF1 en disant ça n'est plus une fiction, ça n'est plus un travail de romancier, c'est un documentaire que je vais vous livrer et mon autobiographie telle qu'elle aurait pu être faite par Mireille Dumas.
Mais avec le terme roman, c'est la couverture.
Lionel Duroy, le double jeu, c'est-à-dire en jouant sur le double niveau, en étant d'un côté roman en librairie pour Grasset et de l'autre côté en allant dans les pires lits de la télévision privée.
On va revenir sur Yann Moix dans quelques instants.
Pour vendre Lionel Duroy.
Je suis tellement d'accord avec ce qu'a dit Jean-Baptiste. Parlons littérature. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, c'est que je regrette vraiment de ne pas avoir pris un pseudo quand j'ai commencé à écrire il y a 35 ans. Mais très profondément. Parce que ce qui compte, c'est l'œuvre, c'est le travail. Et être finalement rattrapé du fait qu'on a mis son vrai nom sur la couverture. Alors, ce qui compte, c'est le contenu du livre. C'est quand même pitoyable de se retrouver devant un tribunal poursuivi. Alors, je me serais appelé Dupuis depuis le début. J'écrivais exactement les mêmes livres et je n'avais pas ces problèmes.
Je suis parfaitement d'accord avec vous et je trouve qu'aujourd'hui, le rapport au livre, même quand on n'est pas parfaitement dans l'autofiction, est très dévoyé par le rapport de l'époque à la vérité. C'est-à-dire qu'on cherche toujours à placer la vérité là où elle ne doit pas nécessairement l'être. En d'autres termes, la vérité est l'inverse de la littérature, l'inverse du roman. C'est-à-dire que la littérature n'est pas un tribunal, c'est pas la police. Donc, on s'en moque de la vérité, on s'en moque complètement. C'est pas le jugement dernier, c'est la perception que l'on a des autres, de soi, de sa vie et du monde. Point. Donc je pense que le problème, c'est pas l'autofiction en elle-même qui existe depuis longtemps. La mère de Gary ne lui a pas fait un procès pour La Promesse de l'Aube. Le problème, c'est l'œil de la société, l'œil de l'époque sur à la fois la vérité. L'époque cherche la vérité partout, d'une part, et d'autre part, l'œil de l'époque sur l'individu. L'époque cherche la mythologie de la personnalité partout. Et donc, il y a un dévoiement de l'autofiction à cause de ces deux zooms qui sont posés à la fois sur la vérité et sur l'individu.
Alors moi, je me souviens que Flaubert disait « Madame Bovary, c'est moi ». Donc déjà, le procès était déjà bien avant l'autofiction. Ouais. Bovary, ça tombe bien, c'est Clara Luciani qui le chante.
Si je suis encore vivante, sinon quelle est cette douleur qui me hante? Mon corps se balance au-dessus d'une mer immense, mais je m'accroche, j'avoue. Il ne me reste plus que quelques souvenirs d'enfance qui déjà deviennent flous.
rendez-vous.
Page 30, la cousine Nadine, NC, NC. Injure. Page 61, dénigrement. Page 61, atteinte à la vie privée. Page 65, atteinte à la vie privée et dénigrement. Page 74, atteinte à la vie privée et dénigrement. Page 84, atteinte à la vie privée et dénigrement. Page 87, nouveau dénigrement. Page 106, atteinte à la vie privée et dénigrement. Page 110, atteinte à la vie privée. Page 111, diffamation en ce qu'il est porté. Une atteinte manifeste à la réputation du docteur Jean-Claude Brault. Page 119 à 123, grave atteinte portée à la vie privée du père de l'auteur qui narre très précisément les relations incestueuses qu'ils ont entretenues.
Le nouveau rendez-vous sur France Inter.
De Vacarme de Gaël Tchekalov à Océan de Yann Moix, en passant par Nous étions nés pour être heureux de Lionel Duroy, la famille et les proches ont encore matière littéraire de nombreux romans. Cette rentrée littéraire, on en parle avec nos invités, les écrivains Lionel Duroy, Gaël Tchekalov, l'avocat Emmanuel Pierrat et le journaliste littéraire Baptiste Ligier. On vient d'entendre un extrait de l'inceste, Christine Angot énumère justement tout ce que l'avocat a repéré dans son manuscrit avant la publication. Ça vous rappelle quelque chose, Lionel Duroy ?
Bien sûr, ça me rappelle quelque chose. Le débat, chaque fois, après chaque livre, c'est est-ce qu'on le montre à un avocat ou non ? Alors, on le montre à un avocat, et avec mes éditeurs Betty Mialet et Bernard Barrault, on a à peu près ça. Et on dit, ça fait rien, on publie quand même. On publie quand même, parce que sans ça, c'est infernal. J'imagine Thomas Bernard poursuivi pour Extinction, Tout Hamsun poursuivi pour La Fin. Chaque fois, on reconnaît des gens. L'autofiction, je ne sais pas ce que c'est. Ça existait déjà il y a 200 ans.
Bien sûr, c'est ce que vous venez de dire. Mais Jules Verne a été poursuivi pour ce qu'on pourrait appeler une autofiction. Anatole France a été poursuivi. Simenon a été condamné pour Pédigré. Donc, l'argument de l'ancienneté ne tient pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'argument de la littérature. En tout cas, vous pouvez pas prendre prétexte de l'histoire littéraire ancienne pour considérer qu'il n'y a pas de procès possible. Il y en a eu, malheureusement. Ce qui se passe avec ce travail d'avocat qu'on fait sur la lecture des manuscrits, c'est qu'on indique le maximum de ce qui peut arriver. Le pire, c'est le travail d'un juriste. C'est de prévenir et de dire, voilà ce qui pourrait vous arriver.
Mais vous déshabillez le livre. Fait chaque fois une consultation d'avocat, il n'y a plus de livre après la consultation.
Après, donc on renonce à publier. Non, alors. Le tri est fait ensuite entre l'éditeur, l'auteur et parfois en compagnie de l'avocat, pour savoir parmi la totalité des risques ceux qu'on prend et ceux qui semblent, en revanche, impossibles à affronter. Parce qu'une maison d'édition, vous le savez, c'est l'économie d'une petite boutique. C'est rien. L'économie de l'édition et de la littérature et de la culture, malheureusement en France, ça n'est pas Rhône-Poulenc ou Renault. C'est un dixième de la plus grosse PME de province. Donc c'est quelque chose de très fragile. Le moindre coup au tribunal fait s'effondrer une maison d'édition et provoque ensuite la sortie de trois auteurs du catalogue.
C'est pour ça que d'ailleurs les maisons d'édition sont de plus en plus frileuses.
Elles sont frileuses, pas pour le plaisir de censurer. Non. Les avocats ne le font pas pour le plaisir de mutiler les livres. Ils le font parce qu'on sait malheureusement que les juges, eux, donnent des coups en matière de dommages et intérêts qui sont l'équivalent d'un visage moderne de l'Inquisition.
Oui, mais dans ces cas-là, la maison d'édition, effectivement, comme le disait Lionel Duroy, peut décider de passer outre. Moi, ça m'est arrivé, il y a des personnages publics dans mon livre.
DSK.
DSK, Emmanuel Macron, entre autres, Rachida Dati. Et il y a effectivement des scènes plus ou moins intimes qui sont dévoilées avec ces gens-là. Et l'éditeur a décidé de passer outre parce que il sait très bien que si jamais c'est attaqué, ça fait encore plus de publicité au livre qu'il n'en avait initialement, et que en général, les personnalités publiques attaquent moins que les personnes privées.
Oui, les personnalités publiques attaquent moins que
les anonymes.
Ouais. Bien sûr, parce qu'il y a un effet qu'on appelle Streisand dans mon jargon, qui veut dire que c'est lié à une jurisprudence, qui veut dire que quand on attaque, on va donner de la publicité, évidemment, au mouvement ou à l'action judiciaire qu'on produit. Ceci dit, ne vous trompez pas, le nombre de livres poursuivis ou d'écrits poursuivis et qui ont connu la gloire grâce au procès est infime. La plupart du temps, un procès, ce sont des emmerdements, des honoraires d'avocat, du stress pour tout le monde, pour l'écrivain, pour l'éditeur, etc.
Et des ventes extrêmement basses.
C'est-à-dire l'effet de mousse ou de scandale est néant. Vous avez des retombées dans la presse et aucun lecteur ne se précipite en librairie au motif que vous êtes poursuivi. Donc un procès, pardonnez-moi, il vaut mieux l'éviter. Et surtout, c'est l'avocat qui vous le dit.
Et surtout, vous faites basculer la littérature dans le fait divers. Ce qui arrive avec le livre de Yann Moix, ce qui nous rend tous très tristes, en fait, parce que Yann Moix est un écrivain, il sort un roman, et qu'est-ce qui reste de ce roman aujourd'hui ? Un fait divers.
Pour autant, il marche en librairie quand même, le livre de Yann Moix. Il marche ou pas, Baptiste Léger?
Justement, pas tant que ça. Le livre, très honnêtement, je dois dire qu'une rentrée littéraire a besoin, disons, de blockbusters, pardonnez le mot, en tout cas, de grosses machines et de livres un peu événements, tout simplement pour attirer un très large public vers les librairies. Et très souvent, le livre dont on parle, il se trouve que parfois, certaines années, c'est écrit des livres sur Christine Angot, de Michel Houellebecq, j'en passe. En tout cas, il y a toujours ce livre événement, attire largement les gens en librairie. Or, le livre de Yann Moix, au vu de ses premières ventes, après il faut toujours vérifier auprès des différents instituts, mais ne fait pas du tout un tabac comme fait par exemple le livre d'Amélie Nothomb, quasiment sans énormément de promotion. Non, encore une fois, le scandale en l'espèce est très très loin de celui provoqué par d'autres livres ayant eu le même statut dans les années passées.
Emmanuel Pierre.
C'est logique, parce qu'il faut rappeler que ce scandale, il connaît trois temps dans l'affaire Yann Moix. Le premier, c'est la mise en scène, roman d'un côté, et puis 7 à 8 TF1 avec l'enfant supposé martyrisé présenté par l'auteur, qui provoque un premier scandale, entre guillemets, qui est supposé l'opposer à sa famille, sur le terrain
non plus de la fiction,
dont je suis l'avocat. Je suis l'avocat de ses parents et de son frère, non plus sur le terrain de la fiction, mais sur le terrain de l'enfance maltraitée. On est sur autre chose. Dans un deuxième temps, il y a la réponse du frère, Alexandre Moix, dans Le Parisien, qui dit « mais non, ça s'appelle Mon frère ce bourreau », dans laquelle il dit « ce que raconte mon frère comme une accusation à charge contre mes parents, c'est ce qu'il m'a fait subir, moi, Alexandre ». Donc il y a un deuxième temps...
Oui, mais ça, on devrait s'en foutre complètement.
Laissez-moi finir.
Oui,
il y a une troisième étape dans laquelle la presse divulgue des écrits antisémites, racistes et négationnistes. C'est pas totalement autre chose.
C'est autre chose.
En apparence, la difficulté, c'est quand Yann Moix a dit, dans les violences supposément subies, qu'elles étaient la vérité. Non pas une vérité d'écrivain, mais la vérité.
Oui, mais alors Il est jugé pour
son rapport à la vérité. Et là, c'est là que les lecteurs ne suivent plus.
Et c'est là qu'on parle plus du tout de littérature, excusez-moi.
Mais parce que lui-même s'est pris dans son propre piège. Il est allé sur les deux terrains. Il est allé sur le terrain de la littérature. Et de l'autre côté, il est allé sur quelque chose qui, d'après moi, ne relève pas de la promotion littéraire. Et il se retrouve avec son passé antisémite, raciste et négationniste, j'insiste, qui lui revient à la figure. Et une parole qui, d'un seul coup, est discréditée. Mais il n'aurait jamais dû dire que cette parole était vraie. Il aurait dû se contenter de dire qu'il s'agissait d'une parole d'écrivain et de rester sous le label de roman que son éditeur avait choisi de concert avec lui.
Mais
très grande faute. Et elle se paye, pardonnez-moi, par des méventes en librairie et par un gouffre qui lui fait perdre l'éventualité du prix Goncourt qu'il souhaitait tellement avoir.
Vous revenez sur des choses très graves mais qui sont propres au cas de Yann Moix.
Bien sûr.
Qui a été commenté et recommenté. Non, moi je ne voudrais pas parler de Yann Moix. Je voudrais parler, en fait, effectivement, du dévoiement de la littérature produit par l'autofiction quand elle met en scène des proches qui s'en mêlent. Mais surtout, je voudrais parler de la morale et de l'éthique de l'écrivain. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se permettre de tout dire en littérature ou pas ? En d'autres termes, est-ce que la littérature, c'est comme l'amour ? Certaines personnes, il y a deux écoles, certaines disent l'amour pardonne tout, on peut tout faire en amour. Et bien, il y a certaines personnes chez les écrivains, comme en amour, qui disent la littérature pardonne tout, on peut tout faire en littérature. Et pour moi, c'est le vrai sujet parce que...
Est-ce que, par exemple, Gaël Tchakalov, vous êtes autocensuré ? Est-ce que vous n'avez pas tout dit ? Est-ce qu'il y a des choses que vous aviez écrites et que vous avez laissées de côté pour ne pas blesser ?
Non, je me suis pas auto-censurée. Il y a certaines choses que je n'ai pas dites parce que moi-même, je n'arrive pas à les écrire. Je les écrirai peut-être dans 40 ans, mais non.
Mais ça, c'est Lunel du Roi. Mais jamais, c'est le contraire de la littérature de s'auto-censurer. En revanche, je suis vraiment d'accord avec vous. Je me souviens quand j'écrivais Le Chagrin, j'en ai presque fait des dépressions, c'est-à-dire arriver sur des problèmes tellement compliqués à mettre en mots, tellement secrets, tellement enfouis, qu'effectivement, vous travaillez des jours et des jours. Mais c'est ça la littérature, c'est parvenir à dire la nature humaine, notre profondeur, tout ce qui est sombre, tout ce qui est inavouable, tout ce qui est horrible, c'est ça. Et donc il faut à aucun prix que la justice s'en mêle, c'est une catastrophe.
Et pour revenir donc au roman de Yann Moix, mais influencé par la justice, du coup vous, Emmanuel Pierrat, vous demandez par exemple qu'il y ait une rectification via un communiqué qui soit édité dans le livre. Et c'est pas la première fois que ça arrive, ça a eu lieu par le passé, notamment par rapport au livre de Jean-Louis Fournier.
Qui s'appelait La Servante de Dieu, je crois que c'est sa fille qui a demandé qu'il y ait un rectificatif à l'intérieur du bouquin. Vous ne demandez pas de fric, c'est ça ? Cette fois-ci,
je ne demande pas d'interdiction du livre.
Pas d'interdiction du livre.
Pas de dommages et intérêts. Et pour l'instant, je n'ai pas encore agi en justice. J'ai simplement fait savoir aux éditions Grasset qu'il serait appréciable et une voie médiane que je trouverais intéressante qu'il y ait un feuillet pour dire que ce roman relève bel et bien de la littérature et de la fiction. Point. Je ne demande rien de plus.
Donc on ne vient pas sur le factuel. Donc à ce moment-là, on reparle littérature, on ne parle plus de faits divers.
Les parents que je trouve extrêmement dignes et respectables dans cette position, qui sont accusés de façon non contradictoire, ils se sont retrouvés du jour au lendemain avec ce livre écrit par leur fils qui les fréquentait jusqu'à encore 3-4 ans, qui les invitait à ses avant-premières de films, qui leur envoyait ses livres, qui d'un seul coup les traîne dans la boue. Ses parents ont la dignité de ne pas demander, de ne pas lancer de poursuite contre ce livre et de dire on souhaite juste qu'il soit inscrit que c'est un roman. Voilà, rien d'autre. D'accord. Et à partir du moment où notre fils a commencé à dire qu'il ne s'agissait plus d'un roman, il y a pour nous un problème. D'accord. Et ce problème doit être rectifié par l'insérer simplement d'un communiqué. Voilà cette attitude que je trouve, alors là, très peu blâmable par rapport à l'amour que nous avons de la littérature et au respect que nous devons aux écrivains, quels qu'ils soient.
Mais par ailleurs, Yann Moix avait déjà évoqué ces questions dans ses œuvres passées, notamment dans Naissance et dans
Yann Moix l'évoquait sous des intitulés de romans et par des formules qui laissaient supposer qu'elles appartenaient à la littérature. Et quand il en sortait, c'était pour dire non, je connais très bien les livres de Yann Moix, je connais cette famille depuis des années. Je connais les parents depuis des années, je connais Alexandre depuis des années, je connais Yann depuis toujours. Donc c'est assez étrange et je suis à peu près tous ces épisodes et j'ai vu les écrits de Yann Moix parfois commencer à titiller ou jouer, mais on ne savait pas très bien ce qu'il voulait dire. Il n'avait jamais rien formulé de précis. Et comme il a parlé de 100 000 sujets sur lesquels, pour l'instant, je n'ai pas vu de roman présenté comme une vérité. À propos de l'enfance maltraitée, tout ce qu'il dit à un moment, c'est à propos des migrants et des mineurs migrants, situation catastrophique. Il dit « Ces enfants souffrent et je sais ce que c'est qu'un enfant qui souffre ». Moi, je n'en ai pas tiré une conclusion selon laquelle il a d'un seul coup balancé en librairie un roman pour ensuite le présenter à charge contre ses parents en disant chez TF1, dans quel cadre qui n'a rien à voir avec une émission culturelle ou littéraire, c'est un livre qui parle de mon père, José Moix, à telle rue, qui fait telle profession et qui habite dans telle ville, qui est le titre du livre. On n'est pas du tout dans le même registre. N'essayez pas de me faire avaler, pardon, que tes parents auraient cautionné les écrits littéraires en considérant que c'était une invitation à d'un seul coup les traîner dans la boue. Il y avait des choses qui leur paraissaient un peu étranges, qui leur paraissaient prendre des choses, mais leur respect de la culture et de la littérature fait qu'il souligne c'est son travail d'écrivain. Du moment qu'il est sous la casquette de romancier, qu'il aille où il veut aller.
On a bien compris, Emmanuel Pierra. Quand un écrivain naît dans une famille, c'en est fini de la famille. C'est ce que disait Philippe Roth. Vous êtes d'accord, Emmanuel Duroy ?
Je le pense profondément. Je suis gré à mes frères et sœurs de n'avoir jamais porté plainte contre aucun de mes livres et évidemment de la réconciliation qui vient aujourd'hui. Mais je mesure la violence que représente la naissance d'un écrivain à l'intérieur d'une famille, la mienne particulièrement, puisqu'on était 10 enfants.
Il fallait qu'il y ait un écrivain, vous vous rendez compte? Oui.
Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui dit sa vérité, à travers, mais c'est vraiment sa vérité, à travers la littérature, pour essayer d'expliquer comment c'est possible, comment un tel chaos a été possible, et qu'est-ce qu'est profondément la vie après, comment on s'en sort de tout ça. C'est tout un travail littéraire. Et je comprends que les autres qui n'écrivent pas puissent être absolument bouleversés et choqués.
Gaël Tchekalov.
Alors moi, bizarrement, ça a produit l'effet inverse. Mais peut-être que j'ai beaucoup de chance et que ça va se retourner contre moi.
Ils sont des chics, on a un écrivain à la maison.
Non, pas du tout. Mais ça, en fait, ça a permis de parler des sujets fondamentaux que je n'osais pas aborder par l'oral et que j'ai abordé à l'écrit. Et donc, ce livre est devenu une sorte de kibbutz. C'est-à-dire que tous les personnages qui sont dans le livre, la famille, les amoureux, et y compris les hommes politiques dont je parle, se sont tous investis dans le livre. M'aide alors, quand c'est ma sœur, elle m'accompagne aux dédicaces. Quand c'est mon père, il invite les libraires à dîner.
Vous êtes sûr que Rachida Dati va vous accompagner pour des dédicaces?
Bon, elle, c'est un cas à part.
Pense pas.
En fait, ni faire du shopping. Ça a créé, en tout cas avec l'entourage extrêmement proche, une forme de kibbutz où on est tous, en fait, notre manière de se parler, c'est devenu de parler du livre.
Baptiste Léger.
Il faudrait quand même pas oublier un fait essentiel, c'est que toute œuvre littéraire est par essence, j'allais dire, une œuvre autobiographique aussi, par effet paradoxal. Encore une fois, parfois les romans de tel ou tel auteur qui paraissent très éloignés de lui, avec des personnages aux antipodes ou des univers très éloignés dans le temps ou l'espace, en fin de compte, ce sont les œuvres les plus autobiographiques. Enfin, quelqu'un comme Stephen King, quelqu'un comme Amélie Nothomb, enfin voilà, ce sont des personnes qui tiennent ce discours. Par exemple, je vais me tourner vers Lionel Duroy, qui à la fois a vraiment évoqué, en tout cas de manière apparente et revendiquée, j'allais dire l'évocation de son histoire très personnelle, mais il est allé vers d'autres territoires. Mais malgré tout, on pouvait parler aussi d'œuvres autobiographiques.
Avec Eugénia, absolument. Par exemple, Eugénia se passe en Roumanie de 35 à 45. Je l'ai écrit il y a 2 ans, je suis allé m'installer en Roumanie. Et en fait, qu'est-ce que je décris? Je décris la naissance d'une conscience à l'intérieur d'un milieu antisémite en 35 en Roumanie, où il va y avoir des pogroms épouvantables. La famille est évidemment antisémite et la jeune fille qui a 18 ans va peu à peu prendre conscience de ce que c'est que l'antisémitisme et la montée de la haine. Bon, et je viens d'une famille antisémite. Je sais ce que c'est la prise de conscience. Ça s'est passé pour moi entre 16, 17 et 18 ans. Donc, en fait, Eugénia, qui n'a aucun rapport avec moi, en plus, Eugénia est une jeune fille, je suis un homme.
Oui, jusqu'à preuve Eugénia, du contraire.
Jusqu'à preuve du contraire. Et donc, Eugénia est en fait extrêmement autobiographique.
Famille ce soir dans le nouveau rendez-vous. Elle en parle elle aussi dans son treat Father Son, un extrait de Lately. C'est le premier EP de Céleste, la programmation légère et familiale de Jean-Baptiste Audibert.
France Inter.
L'affaire Stern, le banquier suisse tué par sa maîtresse il y a 5 ans. L'affaire a inspiré un romancier, Régis Jaufré. Mais la famille Stern n'a pas apprécié et a déposé plainte. Elle demande même l'interdiction du roman.
Moi, vous savez, je ne vais pas critiquer le cinéma d'Arnaud Desplechin.
Le nouveau rendez-vous.
Quand le point de décollage d'une création, c'est les histoires personnelles.
Laurent Goumard.
Et quand le point d'arrivée, c'est dézinguer un gosse, salir la mémoire des morts et si possible piétiner une bonne femme. Là, le problème de la création se pose.
Création ou règlement de compte selon Marianne Denicourt, qui avait été en effet épinglée dans le film d'Arnaud Desplechin, et puis bien sûr le rappel de l'affaire Stern. Et Régis Jaufré, on en parle. Est-ce qu'on peut encore écrire, travailler sur sa famille, sur ses proches, sans craindre le procès? On en parle avec nos invités, les écrivains Lionel Duroy, Gaël Tchakalov, l'avocat de la famille Mouax, entre autres Emmanuel Pierrat, et le rédacteur en chef de Lire, Baptiste Léger. On en est où aujourd'hui du respect de la vie privée en ce qui concerne les œuvres de création? Parce qu'en fin de compte, c'est par là que ça pêche. C'est ça la première chose qui est reprochée.
Non, il n'y a pas que ça qui pêche. Ce qui pêche, c'est la diffamation aussi. Oui. C'est beaucoup d'autres choses. Si ça se tenait que sur la vie privée et sur l'article 9 du Code civil pour faire un mini-cours de droit, ça serait presque simple. La difficulté avec la littérature, avec les œuvres de création, c'est qu'elles portent atteinte, si je puis me permettre, pour les juristes. À la fois, souvent, elles injurient, elles sont diffamatoires, elles sont attentatoires à la vie privée. Notre problème, c'est que tout ça est appréhendé par des multiples textes qui ne répondent pas du tout aux mêmes préoccupations et qui, surtout, ne font pas de cas spécifique avec un droit au roman ou un droit à la création littéraire. Le droit est beaucoup plus basique,
mais par exemple,
linéaire.
Par exemple,
et j'allais dire presque heureusement, parce que s'il y avait un espace sacré qui voudrait dire que donc tous les autres sont beaucoup plus responsables, ça me le dérangerait aussi, pour ce qui est des journalistes, pour ce qui est des enquêteurs, pour ce qui est etc.
Mais par exemple, quand Scarlett Johansson porte atteinte à un livre de Grégoire Delacour, c'est ça? Parce qu'il y a un personnage dans ce livre qui lui ressemble, et elle trouve que... C'est quoi le procès, là?
Le procès de Scarlett Johansson, c'est qu'elle attaque comme elle attaque la presse People, en disant qu'elle figure dans un livre dans lequel elle n'a pas été payée. Elle a été accueillie par les tribunaux français avec 1 euro de dommages et intérêts.
Mais quand même, avec 1 euro de dommages et intérêts.
Parce que le principe, Grégoire Delacour la met en scène, mais la met en scène dans sa vie privée. Et ça concerne sa vie privée, vraie ou fictive, peu importe. Donc, sur le principe, les juges donnent en apparence raison à Scarlett Johansson. Et en pratique, avec 1 euro, évidemment, c'est un procès qui est déficitaire et qui n'est pas rentable.
Oui, mais pour autant, il y a quand même une condamnation.
Je le sais bien, mais vous ne pouvez pas, au motif que c'est Scarlett Johansson, défaire l'institution, entre guillemets, je n'ai pas dit que je plaidais pour, mais qu'est l'article 9 du Code civil et tout ce qui va avec.
Baptiste,
ce qui m'intéresse, vous avez diffusé un instant Arnaud Desplechin et Marianne Denicourt. Marianne Denicourt, il faut rappeler qu'elle a répondu par un livre.
Par un livre chez
Stock. Qui est beaucoup plus élégant, quand même, que de faire un procès. Parfois, ou quoi que ce soit. Elle a répondu par une œuvre littéraire qui est un assez beau livre, je trouve.
Il y avait Baptiste aussi le célèbre procès de Jean-Marie Le Pen il y a quelques années
avec Mathieu Lindon.
Alors,
avec
Mathieu Lindon que vous connaissez.
Que je connais particulièrement bien. Mathieu a perdu ce procès parce qu'il a eu le bonheur ou le malheur, vous trouverez comme vous voulez, de dire quelque chose qui est très vrai et en même temps très problématique au tribunal. Il était poursuivi, donc pardon pour le livre s'appelle Le procès de Jean-Marie Le Pen. Et raconte que Jean-Marie Le Pen est jugé pour avoir incité 2 de ses militants du Front National à jeter un Africain, un Noir, je ne sais plus s'il est français ou s'il est Africain dans le livre, dans la Seine. À partir d'un fait divers, entre guillemets, moi je trouve que ce n'est pas un fait divers, c'est un fait abominable, qui s'est réellement déroulé. Et Mathieu a été poursuivi pour 6 passages de ce roman par Jean-Marie Le Pen lui-même. Donc ça donnait le procès de Jean-Marie Le Pen. Et à la barre, Mathieu Lindon, fils du grand éditeur Jérôme Lindon,
aux éditions de Minuit,
a trouvé le moyen de dire « Vous ne me condamnerez pas parce que ça n'est pas la réalité, c'est un roman, et vous ne me condamnerez pas parce que c'est la réalité ». Et que c'est ce qui s'est passé.
Et donc alors, il a été condamné.
Comment dire, moi j'étais dans la salle en train de blêmir, me dire, bon, on va dans le mur. Et c'est parti dans le mur.
Mais Emmanuel Pierrat, en 2014, vous aviez dit qu'il était dommage en France qu'il n'y ait pas de droit à la fiction, alors que c'est aussi important que le droit à l'information. Et bien justement, à ce sujet-là, on a une auditrice qui nous a appelé, c'est Naïma d'Île-de-France.
La fiction dans les romans, c'est la liberté. Cette liberté doit-elle avoir des limites?
Emmanuel Pierrat.
Non, j'avais écrit effectivement qu'il était dommage qu'il n'y ait pas de droit à la fiction. Mais en disant ça, je le disais tout à l'heure, je suis à la fois pour un droit au roman et je trouverais ça dangereux. C'est-à-dire qu'on puisse d'un seul coup considérer à contrario que tous les autres sont extrêmement responsables de ce qu'ils écrivent et doivent être poursuivis. C'est-à-dire que c'est la voie ouverte à la censure sur tous les autres terrains. Alors je crois que la littérature est plus subtile qu'une case qui s'appellerait uniquement roman. Là, je plaide presque contre mon camp, à propos de l'affaire Yann Moix. Mais je trouverais un peu binaire qu'il y ait une case roman dans laquelle on pourrait se réfugier et une case tout le reste qui serait condamné. Je crois qu'il y a des livres entre deux.
Justement, le cadre
dans quoi les confessions de Jean-Jacques Rousseau seraient classables, etc.
Non, alors, c'est très curieux, justement. On a un cas ici avec Gaël Tchakalov. Gaël Tchakalov, il y a marqué, quand on lit les pages, que c'est votre premier roman. Pour autant, sur la couverture, le mot roman n'apparaît absolument pas, ni à l'intérieur. Ça apparaît sur la 4e de couverture.
Il faut demander à mon éditrice. je ne sais pas ce qui fait partie du roman ou pas du roman. En réalité, je pense que c'est toujours du roman parce que même en autofiction, en autobiographie, la déformation subjective que l'on a du monde est une création par elle-même. Mais d'une certaine manière, on s'en fiche. C'est-à-dire que ce que vous dites à propos de l'affaire Yann Moix ou de l'affaire Marianne Denicourt, je pense que quand on est un vrai lecteur de littérature, peu importe la vérité, peu importe les procès, peu importe tout ça, parce qu'en fait, le contenu du livre n'est pas important. Donc, la vérité n'est pas importante. En d'autres termes, ce qui est important, c'est le style, la langue, les mots, le récit narratif, la technique. Ce qui est important, c'est l'univers dans lequel l'écrivain vous emmène. Mais est-ce que vous croyez qu'à la recherche du temps perdu, si je vous raconte que la bourgeoisie et l'aristocratie du début du 20e...
Ah, en tout cas, ils ont cherché à se reconnaître.
Ce qui est vendeur, c'est la manière dont Proust s'empare du sujet, de la même manière que ce qui est vendeur, si on me dit Lionel Duroy va me raconter sa famille, j'en ai rien à faire. C'est la manière dont Lionel Duroy me raconte sa famille qui m'intéresse.
Alors, là aussi, je veux rebondir sur un mot, c'est le mot vendeur. Mais il se trouve que médiatiquement, il faut bien reconnaître qu'un livre basé sur une histoire vraie ou tiré de l'autobiographie est facilement plus facile à décliner pour différentes raisons. Parce que par rapport à la personne qui écoute la radio, qui lit un article ou qui regarde la télévision, voilà, il y a un effet de réel, ce sacro-saint effet de réel qui est beaucoup plus immédiat, beaucoup plus facile. Et évidemment que, voilà, un ouvrage autobiographique ou d'inspiration autobiographique est plus facile à traiter, plus facile à retenir au grand détriment de la fiction pure et dure, évidemment.
Alors, il y a juste une histoire de procès aussi qui m'a complètement halluciné. C'est l'histoire d'un texte qui s'appelait Le Petit Corps de Corinne Soliac. Vous voyez de qui je veux parler? Elle écrivait le récit, même pas le sien, hein, le récit inventé d'une jeune fille qui était anorexique. Elle donne un nom qu'elle choisit par hasard, parce que c'est un nom assez courant, Estelle Maréchal. Bing! Il y a une Estelle Maréchal qui a été anorexique dans sa vraie vie, qui porte plainte, qui demande 100 000 euros, destruction des ouvrages. Le tribunal a estimé que l'auteur avait porté atteinte à la vie privée d'Estelle Maréchal, même si pour autant les 100 000 euros et la destruction n'a pas eu... Non mais c'est n'importe quoi.
Non, je vais vous dire, ça me fait sourire parce que, par expérience, je mouline sur Google tous les noms des personnages que l'on m'offre à relire comme avocat dans les romans de la rentrée.
Ah, parce que maintenant,
je suis stressé à l'idée, même le nom des personnages, qu'un homonyme puisse tomber sur un homonyme.
Et ben là, Estelle Maréchal, anorexique,
a porté plainte parce que les écrivains prennent des noms, appellent leurs personnages Martin et Jean. Parce que je me dis, là, la possibilité de procès est infinie.
Vous voulez qu'ils les appellent comment? Comme dans la pièce de Claudel?
Abracadabrantesque ou je ne sais pas quoi, Bachibouzou, quelque chose qui est très difficile à trouver de façon commune dans le bottin. Je dis ça à moitié en souriant, parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir ce genre de cas de figure. Des gens qui ne figurent absolument pas comme cible ou comme référence, qui d'un seul coup croient se reconnaître, au tel point que je me suis retrouvé avec, pour un polar, à défendre l'éditeur et la romancière, je ne dirai pas leur nom parce que pour des tas de raisons, et avec deux marchands de tissus escrocs qui sont venus au tribunal en disant « Les deux connards, salauds, etc. dans le livre, c'est nous !» Et là, le juge, comme moi, on les a regardés avec des yeux ronds comme des billes et ils sont repartis, effectivement, avec les poches vides, heureusement, et un ridicule absolu dans un jugement extrêmement dévastateur en disant « Nous attestons, enfin, désattendu pour indiquer que les deux connards s'étaient peut-être reconnus, qu'ils étaient peut-être cons, mais pas dans le roman. »
Vous voyez bien en quoi est-ce que la judiciarisation de la littérature va stériliser, en tout cas javeliser l'œuvre littéraire.
Bien entendu, si on peut plus s'appeler Estelle Maréchal.
Non, nous sommes d'accord, c'est compliqué. Mais ce qui est compliqué, c'est parce que depuis, on va dire, quelques années, les romanciers, de plus en plus, s'emparent des noms du réel. J'ai pas dit que c'était quelque chose de nouveau, hein. Mais s'emparent des marques et effectivement offrent le flanc au procès. Pour finir, pardon, et avant de laisser la parole aux autres ou aux musiciens.
Lionel Duroy,
à Lionel Duroy. Juste, pardon, je souriais tout à l'heure à Gaël Tchakalov quand vous disiez que Proust, c'était vendeur. Je vous rappelle que pour la recherche du temps perdu,
il
s'est publié un compte d'auteur.
C'était une blague.
C'était pour l'humour aussi.
Dire que l'épaisseur ne vient pas du contenu.
Et pour la beauté
du sujet
de l'histoire littéraire,
rappelez
que Marcel Proust a mis quelques temps avant de connaître un succès absolument.
C'était pour rebondir sur le fait que les écrivains partent sur la réalité et effectivement, pour certains, vont aller faire une promotion un peu limite pour vendre davantage de livres, c'est ce qui est extrêmement gênant.
Je pense que ce serait bien de faire des rencontres magistrats, écrivains et créateurs d'une façon générale.
C'est-à-dire, vous demandez un Grenelle de la justice littéraire?
Non, pas un Grenelle, mais moi, c'est vrai que ça m'intéresserait de discuter avec des magistrats. J'ai trouvé les jugements, parfois, je les lis, les jugements, je les trouve parfois intéressants et on devine que le magistrat est un lecteur et que ça l'intéresse et qu'il protège. Tous les magistrats sont pas bornés sur la loi.
Par exemple, le procureur de Madame Bovary, c'est le meilleur lecteur de Madame Bovary. C'est-à-dire, tout ce qu'il a pointé dans le livre, c'est vraiment la réalité. Oui.
Et si, en fin de compte, le problème dans tout ça...
J'adore quand vous commencez comme ça.
Parce qu'on parle beaucoup de l'auteur, des familles, mais en fin de compte, est-ce que le problème, ce ne serait pas le lecteur? Je vais prendre un cas dont on a beaucoup parlé dans la presse, qui était celui de James Frey, l'auteur de Mille Poussières, qui avait évoqué dans un ouvrage la question, notamment, de son alcoolisme, de sa déglingue, etc., etc. et on s'aperçut qu'il avait menti, qu'il avait inventé. Et là, soudain, le lectorat s'est senti un petit peu flou. Et à partir de là, il n'y a plus véritablement de grand intérêt pour son œuvre. Est-ce que ce n'est pas fondamentalement ce que le lecteur recherche ? Est-ce que ce serait pas lui le véritable problème ?
Lecteur, voyeur. Eh ben, voilà. Ça sera le mot de la fin. Merci à vous tous. Vous restez bien sûr avec nous parce que tout de suite, on va partir en live. Nos invités sont aussi nombreux que ceux qui sont sur le plateau. En live avec Marion Guilbeault. All right, let's have a
little rumble at the Ritz tonight. Le nouveau rendez-vous sur France Inter.
La session live quotidienne avec Marion Guilbeault, vous avez toute une famille derrière vous.
C'est presque une famille, Laurent, même si on est loin du drame familial, on est plutôt dans le conflit territorial, politique, culturel, celui qui prive les Touaregs de leur liberté de circuler et de vivre là où ils l'entendent. Tinariwen, c'est leur nom, porte les couleurs et les sons de cette lutte, de cette culture depuis plus de 30 ans. Leur son s'est construit dans l'exil, dans la résistance, dans cette zone entre le Mali, l'Algérie, la Libye, le Niger, le Burkina Faso. Leur son, il s'appelle Assouf, ça signifie la solitude, la nostalgie en langue tamashèque. C'est un peu comme la saudade du désert, la saudade portugaise. Cet assouf résonne comme du blues, ça reste la meilleure musique pour exprimer les tourments. C'est un blues qui est né dans le désert, mais qui les a emmenés bien loin de chez eux, sur les scènes des plus grands festivals et qui leur a même valu un Grammy Award en 2012. En 2019, ces musiciens autodidactes vivent toujours entre le Nord Mali et le Sud algérien. Ils continuent d'enregistrer ce même blues, mais qui se régénère au gré des rencontres. Dans leur nouvel album Amadjar, on entend ainsi le violon de Warren Ellis, le compagnon de Nick Cave ou encore la guitare de Rodolphe Berger. Amadjar a été enregistré dans le désert, près de Nouakchott, en Mauritanie. Il y a eu des sessions à la Belle Étoile, des conversations au coin du feu. Ça délivre toujours ce blues acoustique, plus contemplatif. C'est un nouveau souffle pour chanter l'immensité du désert et la puissance de l'espoir. Et moi, j'ai une question, Laurent, pour Abdallah. Juste avant de jouer, que signifie Amadjar ?
Oui, Amadjar, en langue tamashèque, c'est l'étranger. Donc, il faut savoir que dans la communauté tamashèque, Amadjar, toujours, il est bienvenu. Et d'ailleurs, c'est le mot qui manque aujourd'hui beaucoup. Quand tu es étranger, tu n'as pas du tout accueilli partout là où tu vas. Donc, c'est quelque chose qui manque beaucoup aujourd'hui. Donc, c'est ça que ça signifie qu'Amadjar, il faut savoir que si l'album, il est Amadjar parce qu'il vient d'arriver, donc il est étranger sur la vie dont il est aujourd'hui. Donc voilà, c'est tout, hein, Amadjar.
Mais nous, on va bien l'accueillir, ben nous, c'est étranger.
En tout cas, vous êtes les bienvenus, Tinariwen, ce soir dans le nouveau rendez-vous, c'est à vous.
Mama
beaucoup.
C'est la transe de Tina Riwen. Quelle Tina Riwen ! C'est extrait de leur dernier album Amadjar qui vient de sortir. Tina Riwen aujourd'hui, c'était Ibrahim et Elaga au guitare, Abdallah et Hassan au cœur, et Yadou à la basse, Saïd aux percussions. Ils sont en tournée française, pardon. Dès le 16 octobre, Argenteuil, Quimper, Nantes, La Rochelle, Hérouville, Lyon et à Paris. Ce sera au Casino de Paris le 23 octobre.
Prise de son.
Mathias Alléon, Benjamin Orgeret.
Merci à tous nos invités. Lionel Duroy, Nous étions nés pour être heureux aux éditions Julliard. Gaël Tchekalov, Vacarme, ça sonne aux éditions Flammarion. Emmanuel Pierrat, pas de roman encore, hein, votre famille se méfie peut-être, mais plein de livres. Le tribunal de la terreur chez Fayard, Les francs-maçons et les rois de France chez Dervy, et Star à la barre chez Hugo Doc. J'imagine qu'il y en a d'autres en prévision.
Il y en a un sur les collectionneurs chez Lamartinière le mois
prochain. Oui, pour le mois d'octobre, c'est parfait.
Le livre mensuel d'Emmanuel Pierrat, en quelque sorte.
Exactement. Baptiste Ligier, on vous retrouve dans Lire, qui fête sa rentrée littéraire.
Absolument.
Absolument. Merci à vous tous. C'était le NRV, première partie. On se retrouve dans 15 minutes pour le NRV, la suite France Inter. Plus de Black Sessions cette semaine, les Black Sessions de Bernard Lenoir. Ce soir, Rachida pour son concert du 18 décembre 2006. Demain, au programme du NRV, eh bien, ce sera ça. Oui, le Brexit, c'est dit de façon bizarre, mais c'est le Brexit. Rien ne va plus. Impair, est-ce que ça va passer? Je vous invite dès à présent à poser vos questions, vos interrogations, vos analyses sur notre répondeur 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37. Le nouveau rendez-vous, vous le savez, c'est deux fois plus de chances de nous écouter dès 18h sur franceinter.fr et en podcast, ou alors 22h minuit, parce que figurez-vous qu'on passe à la radio, oui, comme tout le monde. Le NRV, c'est Marion Lelay à la réalisation. Programmation et préparation Virginie Rouzic. Merci Benoît Lagan, on se retrouve mercredi.
C'est ça.
Sur un dossier.
Sur un dossier Compagnon du Devoir.
C'est vrai.
Et Notre-Dame de Paris.
Je me doutais bien qu'on vous allait vous retrouver là. A tout de suite.
Rendez-vous.